La littérature est vivante, bien vivante, chaque mercredi à 21h sur votre radio locale. Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous culturel. 130e numéro ce soir pour une émission qui tentera de retracer l'histoire agitée de la célèbre dynastie des Romanov. Coup de projecteur sur une dynastie dont on célèbre cette année le 400e anniversaire. Notre invité est actuellement l'écrivain d'origine russe le plus édité en France, Vladimir Fedorovski. Bonsoir.
Bonsoir, j'ai pas perdu mon accent.
Mais je suis très content, c'est la première fois que j'ai un russe. Alors, si mes informations sont bonnes, vous êtes né en Union soviétique.
Bien sûr.
Hein, vous
bien
êtes
sûr.
Né russe, vous avez obtenu la nationalité française il y a...
Bien sûr. Il y a, ça fait beaucoup de temps, c'est 95, oui.
Et vous êtes le fils d'un héros de l'Union soviétique, d'après
oui,
les sources.
Oui, 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 oui. J'ai fait tout. Dans ma vie, j'ai eu trois, vies. J'étais diplomate pendant de longues années, d'ailleurs traducteur de langue arabe au début. Après, j'ai participé largement dans l'entreprise de la perestroïka. J'étais porte-parole même d'un premier parti anticommuniste là-bas, qui s'appelait le mouvement de réforme démocratique, d'où vient le dernier livre, qu'on va parler quelques mots, le roman de la perestroïka, qui est sorti il y a 2 semaines, qui marche beaucoup. Vraiment, la grande rupture de l'histoire, je raconte dans le détail, les tsars rouges. Et puis, je suis devenu écrivain aussi en France. Après, maintenant, ça fait le roman de la perestroïka, le roman des tsars, c'est un 31e livre, le roman de la perestroïka, 32e livre que je sors. Mais vous me connaissez peut-être, il y avait des grands succès dans le monde, surtout le roman de Saint-Pétersbourg, le roman de l'Orient Express, etc.
Le roman du Kremlin, le roman de la Russie insolite.
De la Russie insolite.
Le roman de Rasputin.
De Rasputin, grand prix du roman historique. Tout ça, c'est le livre, vous savez, je vais vous dire, mais je ne voudrais pas que vos auditeurs se trompent sur le message. Le roman de la perestroïka, c'est tout est vrai. C'est pas quelque chose que j'invente. Il y a Paris Match m'a comparé, j'étais très touché évidemment, à propos de ce livre, le roman de la perestroïka, avec Alexandre Dumas. Mais il se trompe sur un sujet. Alexandre Dumas a inventé les choses. Moi, je n'invente pas. Je raconte les histoires d'une manière très accessible, et comme ça, ça fait rêver les gens. On voyage dans le temps et dans l'espace, dans les neiges immaculées de la Russie, et on affronte les personnages extraordinaires, les Romanov, Catherine II, ou les gens de la dernière, du dernier siècle, tout ça, c'est les gens assez, et c'est époustouflant, et j'aime raconter la face cachée de l'histoire, que ce soit l'histoire ancienne avec les tsars, ou l'histoire, disons, moderne avec Jean-Paul II, ou Gorbatchev, pour la perestroïka. Voilà.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour ma part, j'ai lu le roman des tsars aux éditions du Rocher. J'aimerais que l'on parle d'Ivan le Terrible. Alors, lui, il ne fait pas partie de la dynastie des Romanov.
Bien, il ne fait pas partie de l'histoire de Romanov, mais je l'ai mis comme référence parce que c'est le premier tsar de la Russie. Il a inventé l'art de gouverner en Russie. Souvent, les grands auteurs russes, ils reviennent aux personnages qui suscitent des interrogations. Et Ivan le Terrible revient pour les grands de cela. Il y avait un film célèbre qui était d'ailleurs commandé par Staline sur Ivan le Terrible. Ivan le Terrible qui a posé la question de quelle manière la Russie peut vivre. En quelque sorte, c'est la même question qu'il pose aujourd'hui Poutine. Est-ce que c'est un pays à part ou un pays qui doit être attaché à l'Europe? Et Ivan, il était en quelque sorte le premier à dire que c'est un pays d'exception. Un pays à part, et ces espaces, sixième partie du globe, ils ne peuvent pas être gérés que par la violence, dans la réalité, par la peur. Et ça, c'est un inventeur, quelque chose qui sera traité, je vous dis, au 20e siècle. Évidemment, c'est le système totalitaire, il a engendré un système policier, Ivan le Terrible, et c'est un tsar qui est un tsar extraordinaire.
51 ans de rêve.
Ça vacille souvent. Vous avez remarqué, en France, ça vacille toujours entre l'opérette et la tragédie. La politique, c'est souvent l'opérette et la tragédie à la fois. En Évan le Terrible, il y a à la fois la Guignole et Shakespeare. Et j'essaie de raconter, chaque fois que je raconte, que ça concerne les tsars ou la perestroïka, c'est vacille toujours entre la tragédie et l'opérette.
Mais c'est un personnage tout de même inquiétant. Par exemple, expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'on appelle le dessert à la Ivan le Terrible.
Oui, dessert, c'est pittoresque, bien sûr, mais dans mes livres, c'est toujours, il y a des choses inattendues, dessert, quand il y avait. En Ivan le Terrible, je vais vous dire, il y avait des périodes de réformes, de réflexion, et puis il y avait les périodes de débauche absolue. Et là, il se donnait à cœur joie, puisque c'est un homme inventif, notamment il plaçait souvent une femme dénudée, il l'enveloppait du miel, il la touchait, etc. Tout ça, c'est,
et la,
c'est...
Et la femme devenait donc le festin. Donc.
Festin, en quelque sorte festin, mais s'il y avait une sorte de partouze qui ont été organisées, je dirais, mais c'est pas comme chez Deisca, vous devez comprendre, c'est un truc qui se passe quand même dans les souterrains de Kremlin, dans le contexte médiéval, avec les... rien quand il a choisi ses femmes successives, vous comprenez, quand il y avait un concours de la beauté qui pour organiser, il y avait systématiquement les concours de la beauté pour choisir la tsarine, il se passait toujours chez les bains, dans les bains, et Ivan le Terrible regardait avec une petite fenêtre pour choisir la plus belle. Il faut dire qu'au début, les premières années d'Ivan le Terrible, c'est les années très intéressantes, c'est les années de réforme, et où il y avait une inspiratrice, vous me connaissez, j'aime la face cachée de l'histoire, mais bien entendu, j'aime raconter les femmes et les hommes de l'ombre. Et il y avait les inspiratrices, et dans le cas d'Ivan le Terrible, il y avait une inspiratrice, qui était d'ailleurs d'origine noble, d'une petite famille qui entrera dans les annales de l'histoire plus tard, et elle s'appelait Anastasie Romanov.
On retrouve Vladimir Fiodorovski dans une poignée de minutes. Nous reviendrons sur son passionnant roman des Tsars aux éditions du Rocher. Nous marquons une première pause et nous vous proposons d'écouter Jean-Louis Aubert. Demain sera parfait.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter. Dîner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, les seuls et là, ils sont bien au pied de tour infernal. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale, les stéréos radio matinales. Je veux danser, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un air. Je balaise les deux pieds dans la glace. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à leur sort. Je veux chanter. Je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire mentir. Demain je m'y remets. Donne-moi la main camarade, tout ça c'est de la rigolade. Donne-moi la main camarade, même si on est dans la banane. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te paradiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera.
Retour devant les micros de votre radio locale, et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, presque sur les banquettes d'une troïka ce soir. Si vous avez manqué le début de notre entretien, retrouvez-le très prochainement d'un clic en podcast sur le www.radion.fr. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h en compagnie de Vladimir Fedorovski pour le roman des tsars, afin d'évoquer donc des souverains russes souvent brillants et lettrés, mais aussi volontiers violent et autoritaire, et dont le premier, Michel, régna à partir de 1613. Le dernier, c'est Nicolas II, qui sera assassiné en 1918. Donc des tsars lettrés, brillants, mais qui tout de même doivent gérer un immense empire, toujours par la force, par l'autoritarisme.
Il y avait cette tradition autoritaire dans les Romanov, mais quand je les raconte, c'était aussi les grands bâtisseurs. Les gens que je préfère, c'est finalement les gens un peu tardifs. J'adore, par exemple, Pierre le Grand, qui a fait construire le Saint-Pétersbourg, comme vous le savez bien, à partir de 1703. Il a imposé l'empire vraiment russe, dans les contrées impossibles qui étaient dans les marais de Saint-Pétersbourg. J'adore Catherine II, qui était une femme européenne avant l'heure. D'une manière générale, j'adore le XVIIIe siècle. Il y avait cinq tsarines, cinq femmes qui ont régné là-bas en Russie. Et c'est des femmes d'exception qui ont changé les choses. Vous imaginez de construire une ville, d'une part, là-bas, puis faire ces palais extraordinaires. Vous connaissez mon livre, le roman de Saint-Pétersbourg, vous aimez tous venir dans Saint-Pétersbourg, c'est une évasion totale, la vodka, la balalaïka et la troïka, comme disent les Russes, pour rappeler le wagon-livre que vous avez pratiqué, vous comprenez, c'est le changement total. Et puis je vais continuer la liste, c'est la réunion d'un certain autoritarisme, mais franchement, j'aime raconter leur histoire personnelle, et à travers ces histoires personnelles, à travers les personnages, leur intimité, on entre vraiment dans la grande histoire. C'est le même principe que j'applique dans le roman de Tsar ou le roman de la Perestroïka, quand on fait entrer à travers les personnages, à travers les aléas de leur destin, dans les entrailles de l'histoire.
Alors il y a toujours, on le remarque d'ailleurs, de la part des tsars, il y a toujours l'envie d'évoluer en regardant du côté de l'Occident.
C'est un déchirement, parce que le symbole des Romanov, de l'Empire russe, c'est l'aigle bicéphale, et dans la réalité, l'aigle a une tête. Regarde l'Occident, l'autre le regarde l'Orient. Et la Russie est à la fois orientale et occidentale. Et c'est un débat qui continue. De quelle manière la Russie peut être sauvée? Je pense que, quand même, la vision de Pierre le Grand, finalement, la vision de Grande Catherine ou d'Alexandre II, c'est une vision qui prend en compte les racines chrétiennes de la Russie. Il ne faut pas oublier que c'est un empire qui a été construit comme, disons, une sorte de château assiégé contre les mâles maléfiques de l'islamisme, contre l'Empire ottoman, bien sûr, contre le mal de l'islamisme agressif. Et je dois vous dire que depuis, c'est un déchirement qui existe. Vous avez raison. De quelle manière construire ça? Pierre le Grand, forcément occidentaliste, mais d'autres tsars moins, comme Nicolas Premier, par exemple, à la limite, les tsars de la fin du XIXe siècle, Alexandre III, Nicolas II aussi, il a hésité en quelque sorte. C'est les choix géopolitiques qui animent la Russie d'aujourd'hui. Vous savez, quand je raconte mes livres, il faut les lire doublement. D'une manière, c'est une évasion totale, mystère, amour et évasion, évidemment, au premier degré. C'est simplement pour, disons, oublier la tristesse de notre époque. Mais d'autre part, ça donne souvent l'histoire, la clé pour comprendre l'avenir. Vous comprenez, si vous ne connaissez pas Ivan le Terrible ou l'histoire de la perestroïka, vous ne pouvez pas comprendre Poutine aujourd'hui, ni sa position en Syrie comme défenseur des chrétiens de l'Orient. Tout ça, c'est les vraies questions qui animent ce pays à travers les siècles. Et je pense que cette histoire longue, pour reprendre le terme de Brodel, c'est une histoire longue qui donne la clé pour comprendre cette situation.
Vladimir Fedorovski, vous aimez beaucoup Pierre le Grand. Bon, c'est vrai qu'il était grand par la taille. Apparemment, il faisait 2 mètres. C'était un géant. Alors, il aime s'amuser. Il aime se rendre dans le quartier des étrangers de Moscou. Donc, Pierre le Grand, c'est le début du XVIIIe siècle. Hein?
C'est le début du XVIIIe siècle. C'est un tsar extraterrestre, pour vous dire.
Extraterrestre?
Bien sûr, parce que c'est un tsar qui était élevé dans les souterrains de Kremlin, dans le contexte pesant de Moscou. Il détestait ça. Et lui, il était persuadé que le destin de la Russie devait être lié avec l'Occident. Culturellement, il a fouetté la Russie pour se rapprocher de l'Occident. Vous avez remarqué le quartier des étrangers, au fait. C'est un quartier très particulier. Je suis né pas loin de là et je connais bien une ambiance des gens venus d'ailleurs, vous dites, les ambiances venues de l'étranger. Et c'était les pirates, les aventuriers devant l'éternel qui ont débarqué en Russie, qui ont formé Pierre le Grand, mais d'une manière bizarre. Il lui a inculqué deux hantises, deux idées fixes. C'est la construction du port, Saint-Pétersbourg, sur la Baltique, et le désir de voyage. Vous connaissez comment il a voyagé, c'est vraiment les histoires exquises. J'ai trouvé, par exemple, ses certificats quand il a travaillé comme un simple, charpentier dans les chantiers hollandais. Tout ça, c'était des personnages d'exception, et c'était vraiment, vraiment le tsar d'exception qui doit être là.
Alors, Vladimir Fedorovski, il y a, comme pour les rois de France, un élément omniprésent dans les règnes des tsars, ce sont les guerres. Il y a toujours des guerres menées tantôt contre la Prusse. Les ennemis changent, en fait.
La France, il y avait plusieurs tentatives, d'ailleurs, charmantes de l'alliance. C'est plutôt la France qui s'est trompée à l'époque. Vous savez que Versailles, surtout au XVIIIe siècle, était très réticent face à la Russie. Il y avait une histoire époustouflante quand il y avait l'ambassadeur qui voulait arranger les choses, qui a une copine, la tsarine Elisabeth, l'ambassadeur Chétardy, qui était très pro-russe comme message, mais une histoire extraordinaire quand il a failli devenir le favori, presque tsar, de toute la Russie en français, organiser un coup d'État et tout le reste. C'est une histoire comme 3 mousquetaires. Mais cela dit, évidemment, la France, à l'époque, elle a hésité face à cela, mais il y a cette attirance permanente des Russes vers la France. Et finalement aussi des Français là-bas. Depardieu, contrairement à ce que vous pensez, c'est une histoire ancienne. Depardieu reflète une sorte de vraiment tentation russe qui existait à travers les siècles. Il y a les histoires époustouflantes, ce chevalier d'Eon, cet ambassadeur qui a failli devenir tsar, les grands militaires de Pierre le Grand, les grands amiraux de Pierre le Grand qui ont été français, les familles françaises qui se sont mariées. Il y a les égéries françaises qui ont soutenu les tsars, les tsars et aussi, pour vous dire, les combattants de la liberté au début du XIXe siècle, les décembristes que mon ami Troya a si bien décrit dans son roman sur la Sibérie et les égéries de la Sibérie. Vous comprenez, c'est une attirance réciproque qui existe à travers le siècle, qui a été forgée par De Gaulle, et j'espère que dans le contexte actuel, peut-être on va voir une sorte de relance de cette alliance.
Nous sommes ce soir avec Vladimir Fedorovski pour ses 2 derniers ouvrages, Le roman des tsars et Le roman de la perestroïka, tous 2 disponibles aux éditions du Rocher. On marque une nouvelle pause musicale, place à la musique et à la chanson française. On écoute Pense à moi et c'est Luc.
Mon amour, reste un dernier tour, comme au premier jour.
Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi. Je pars pour l'aventure car ici la vie m'ennuie. Recompter les blessures, compter l'infini. Parcourir le monde, y déployer mes ailes. Ici je suis une ombre, un seul dans la centaine. Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi. Pour mon enfance morte depuis peu, retrouver l'innocence, une flamme pour mon feu. Je quitte la tombe que le temps creuse en sourdine. Ici je suis une bombe, un fantôme, une machine. Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi. Un dernier cri pour une nouvelle vie, pense à moi.
Tu pars si loin de moi, mais je n'y suis pour rien. Pense à moi.
Je pars dans le désert au lieu de creuser dans les villes. De très beaux cimetières, des colosses aux pieds d'argile. Je pars si loin de toi, mais tu n'y es pour rien. Ici tout y est plat, là-bas tout y est plein. Oh mon amour, juste un dernier tour, comme au premier jour, pense à moi. Oh mon ami, juste un dernier cri pour une nouvelle vie, pense à moi.
Juste un dernier tour. Juste un dernier tour. Comme au premier jour.
Merci de nous rester fidèles. Nous sommes ce soir au cœur de l'histoire russe, puisque nous tournons les pages de l'album des tsars avec l'écrivain russe le plus édité en France, Vladimir Fedorovski, qui est également directeur de collection aux éditions du Rocher. Une histoire familiale et nationale faite de trahisons, d'assassinats et de luttes incessantes pour le pouvoir. Et cette épopée romanesque se trouve et se retrouve en librairie aux éditions du Rocher. C'est donc le roman des tsars. Alors parlons de la grande Catherine qui a tant séduit Diderot, entre autres.
Bien sûr, mais grande Catherine, encore une fois, comme je vous ai dit, dans l'histoire tout court et dans l'histoire de la Russie, bien entendu, il y a des malentendus. La grande Catherine a été beaucoup dénigrée dans l'histoire comme une sorte de croqueuse d'hommes, vous comprenez, mangeuse d'hommes. C'est une légende. Parce que la grande Catherine, elle a moins d'amants qu'une Française moyenne. 11,5, dit le journal tricoté Figaro Madame, pour les Françaises moyennes. D'ailleurs, je pense qu'ils sous-estiment le nombre. Mais pour Catherine, c'était une femme d'amour. Moi, j'ai publié pour le roman de Tsar, vraiment, les lettres inédites de la grande Catherine. C'est Dante et Béatrice. C'est les choses extraordinaires. Quand il a connu l'homme de sa vie, vous imaginez. Et dans une lettre, il disait... Les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans. Il a rencontré l'homme de sa vie à 44 ans. Il a eu une histoire de l'amour absolu dans cet âge-là, un jeune officier. Et après, avec lui, ils ont construit Saint-Pétersbourg, le palais de Saint-Pétersbourg. Ils ont fait quelque chose qui est cher pour vous et pour moi. Ils ont construit... Elles ont réuni les collections de l'Ermitage. Vous avez pensé de l'affinité avec la France. Bien sûr, une copine de Diderot, mais au-delà de ça, des philosophes de siècle de Lumière, les lettres avec Voltaire, tout ça, c'est la grande Catherine, une des plus grandes tsarines, une des plus grandes, Romanov évidemment, même s'il était une princesse allemande, avec un message formidable, message d'européanité, vous comprenez, elle était francophile par excellence, russe plus que russe, quel message dans l'intégration totale, d'assimilation, et finalement, allemande d'origine, comme vous le savez bien, tout ça, une petite trans-française allemande qui est devenue une des plus grandes tsarines de toute l'histoire de la Russie.
Alors, parlons d'Alexandre Ier. Alors, Alexandre Ier, c'est un tsar rêveur et romantique qui, lui encore, est élevé dans une atmosphère imprégnée de culture française. Il est également éduqué dans l'esprit des Lumières. Et puis, Napoléon veut conquérir l'Europe. Et là, c'est le moment où tantôt la Russie est aux côtés de Napoléon, tantôt elle lui tourne le dos.
Bien sûr, mais ça c'est les volte-face qui est lié avec les rapports personnels avec le tsar, mais lié avec l'aléa de la politique. Détrompez-vous, Napoléon, je ne comprends pas pourquoi Napoléon est allé à Moscou. Je ne comprends pas jusqu'à l'heure actuelle. Vous comprenez, on dit, il y a les explications, il était blessé parce que son copain, le tsar, ne lui avait pas donné une de ses sœurs. Il y avait deux tentatives de mariage, Napoléon avec la tsarine russe n'a pas réussi, il y avait les questions de le blocus face aux Angleterres, mais finalement, il n'y avait pas d'intérêt national de cela. Mais les rapports, quel rapport extraordinaire, c'est vraiment le roman de tsar et de Napoléon, d'Alexandre, rapport extraordinaire entre les deux, l'attirance réciproque, le tsar qui était républicain dans son âme, et Napoléon, évidemment, monarchiste, avant tout, le tsar qui était éduqué, et puis quand ils sont venus à Paris avec cette construction de l'Europe, le rêve de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, tous les deux, ils ont bercé ça, il faut regarder ça, ils sont tous les deux, évidemment, ils ont été tous les deux gaulliens, ils n'ont pas réussi simplement jusqu'au bout, mais c'est leur métier. Il a protégé, après la chute de Napoléon, il a protégé le tsar de Napoléon. Il a obtenu pour lui la pension parce que les Prussiens, ils ont été beaucoup plus rudes envers Napoléon, et ils ont fait tout ça, c'est les rapports ambigus, c'est les réalités qui dépassent la fiction, ou bien le tsar qui a visiblement simulé sa mort et il est parti en Russie, dans les bas-fonds de la Russie, comme ermite. J'ai fait récemment les ADN de l'ermite qui prouvent que l'ermite qui se présentait comme Romanov, il était vraiment Romanov, et peut-être c'était Alexandre Ier. Tout ça, c'est des histoires à la fois géopolitiques, sérieuses, de la création de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, et en même temps, les histoires d'affinité personnelle entre les deux empereurs. C'est le roman des deux empereurs. C'est vraiment époustouflant, cette histoire qui nous a laissé quelques mots, quand même, jusqu'à l'heure actuelle, dans la langue française, rien que bistrot. Ça veut dire bistrot, vite. Bien sûr, quand les Cosaques ont été venus en 14, en 1814, oui, bien sûr, bistrot, tout de suite, bistrot, vite. D'où vient l'appellation bistrot, mais puis, dans les choses plus pittoresques, l'amour et la Cosaque qui est entré dans les mœurs, parce que les Cosaques sont venus, il y avait une affinité évidente, cette fois-ci, avec les Françaises.
Alors, Vladimir Fedorovski, en septembre 1812, il y a l'incendie de Moscou, on ne saura jamais qui a mis le feu à Moscou. Est-ce que c'était des espions français, des soldats maraudeurs, ou alors le gouverneur de Moscou, le général Rostopchine?
Bien sûr, tout est possible, gouverneur de Moscou, mais les Russes qui aiment les choses écuméniques, ils disent que c'est la Providence, c'est la main de la Providence qui a incendié Moscou. Mais c'est un paradoxe aussi pour vos auditeurs. Vous comprenez, Napoléon qui est venu là-bas, qui a laissé des traces, c'est un sursaut national, un grand, qui d'ailleurs était très salutaire pour les Russes, finalement, et pour leur rôle en Europe. Mais je dois vous dire que, en même temps, Napoléon qui est énormément respecté aujourd'hui là-bas, il y a les bals masqués. Il y a une sorte de... quand les gens se déguisent en maréchaux de l'Empire, en souvenir de la venue de Napoléon à Moscou.
Vladimir Fedorovski, les Français aiment beaucoup les Russes, mais il y a une
image
qui reste attachée à la Russie actuelle, c'est que les Russes sont antisémites, ils sont racistes, ils sont homophobes. Il y a, une image quand même du russe très, très dur, incarné par un peuple qui a beaucoup souffert et qui semble souffrir encore.
Non. Vous savez, je vais vous dire, moi, c'était vrai ce que vous dites, moi, je ne pouvais jamais être à la tête des listes de best-sellers. Vous savez, le Perestroïka qui est sorti il y a 2 semaines, vous regardez la liste de best-sellers, elle est partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette attirance, cet intérêt vers ça. Pour ce côté de l'affinité historique, ou les mœurs, vous comprenez, ça, c'est, il ne faut pas oublier que quand même c'est Diaghilev qui était un grand du monde du ballet, fondateur des ballets russes, mais qui était un célèbre homosexuel et qui a complètement transformé les mœurs autrefois à Paris. Rien regardé comme ses rapports avec Cocteau, avec les gens autour de lui. Tout ça, c'est les choses. Il y a une autre chose, vous comprenez. Dans l'heure actuelle, dans le roman de la Perestroïka, je remonte à travers les siècles, évidemment, cette histoire énigmatique de la grande histoire, de la grande rupture de l'histoire avec Gorbatchev, mais la fin du communisme, mais je remonte jusqu'à Poutine. Et je n'aime pas tellement Poutine. Mais je vous dis que pour comprendre Poutine, il faudra évidemment comprendre comment l'histoire a fonctionné. Mais, détrompez-vous, la politique russe, par exemple en Syrie, c'est une politique qui est énormément appréciée par les Français. Moi, je suis étonné jusqu'à l'heure actuelle. Pourquoi ? Et les Français ne se trompent pas sur le message. Ils considèrent que la Russie, c'est un barrage aussi à l'islamisme agressiste, que l'islamisme modéré, pas l'islam évidemment, puisque les Russes ont une grande tradition de vivre avec l'islam, mais modéré, ça n'existe pas. Vous savez, il ne faut pas rester sur les clichés. Sakharov, Solzhenitsyn, Nureyev, mon ami Rudy, grand pianiste devant l'éternel, tout ça, c'est aussi les Russes, et évidemment. Tolstoï et Dostoïevski sont vos écrivains, comme Maupassant ou Balzac sont mes écrivains. L'affinité prime par rapport au cliché.
Vladimir Fedorovski, on marque une nouvelle pause, si vous nous le permettez. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que vers 21h50, ils retrouveront le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon. Nous nous séparons quelques minutes et nous laissons place à Éléphant. Voici Collective Mon Amour, excellente soirée sur votre radio locale. On se retrouve dans quelques minutes avec Vladimir Fedorovski pour Le Roman des Tsars, disponible aux éditions du Rocher.
De ma fenêtre, je vois des cages autour de moi, allongé pour mieux voir. On se sent mieux dans le noir. J'ai pas de compte à rendre à ces gens qui passent commande. Je vais peindre ta vie en blonde. La lumière va paraître au son. Je pense à l'hiver sans toi, collectif. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom qui rêve de vivre un autre monde. Croire en toi qui n'est pas si sombre. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom qui rêve de vivre un autre monde. Croire en toi qui n'est pas si sombre. C'est toi, c'est pas ton nom. De ma fenêtre, je vois tes yeux bleus posés là, te penser dans le noir, me rêver autre part, frôler le bout du monde, le son, voir passer les gens qui s'effondrent. Je vais prendre ma vie en bleu. La lumière n'a pas trop sombre. Je pense à l'hiver sans toi, collectif mon amour. Sentir glisser ça. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom qui rêve de vivre un autre monde. Croire en toi qui n'est pas
si sombre. Je sais que c'est toi, c'est pas ton nom.
La littérature sur votre radio locale, c'est Wagon Livre, et à son bord, confortablement installé, hein, il faut le dire, Vladimir Fedorovski, on sommes au moment où nous entretenons, nous sommes au château de Gilly où nous enregistrons, et peut-être que celles et ceux qui nous écoutent entendent la pluie qui tombe paisiblement sur les parasols qui nous abritent. Vous êtes ce soir devant nous et devant le micro de Wagon Livre, Vladimir Fedorovski, pour le roman des Tsars, disponible aux éditions du Rocher, à l'occasion des 400 ans donc de la dynastie des Romanov, un livre captif qui nous fait revivre l'épopée romanesque des tsars de Moscou à la cité des brumes, et c'est donc sous votre plume. Alors, il y a un tsar qui va mourir assassiné, je crois que c'est à la 8e tentative d'assassinat.
Absolument. Vous parlez d'Alexandre II, du tsar du milieu du 19e siècle, et je suis très touché que vous évoquiez Alexandre II. Je vais vous dire pourquoi, parce que il y avait des moments quand la Russie aurait pu retrouver son chemin européen naturel. Quand je trouve à titre personnel que Dostoïevski et Tolstoï sont plus forts que tous ces débats géopolitiques et cet aspect culturel la rattache à l'Europe. Il y avait le moment de ça. On a évoqué Alexandre Ier avec cette affaire fâcheuse de la venue de Napoléon à Moscou et Bérézina. Mais il faut dire qu'il y avait un moment fatidique après l'abolition par le grand tsar, un des plus grands tsars de la Russie, Alexandre II. En 1861,
l'abolition du servage.
Et ça, c'est la réforme colossale qu'il a entrepris aussi, la réforme dans le domaine juridique, la décentralisation. Solzhenitsyn est beaucoup intéressé d'ailleurs par cette période. Et c'est une période bizarre quand ça aurait pu bousculer. Vous connaissez ce tsar tous, parce qu'au-delà de ça, il y a une formidable histoire d'amour qui a été si bien incarnée par Daniel Darieux et Romy Schneider, puisqu'il a connu une femme de sa vie aussi assez âgée, à 40 ans, plus qu'à 50 ans même. Il est devenu fou amoureux d'une jeune femme d'origine noble et qui a été une grande égérie politique et a poussé ce tsar vers le régime constitutionnel, mais le destin a voulu autrement. Il a été tué par les terroristes révolutionnaires avant de signer l'acte de la Constitution qui aurait pu faire éviter à la Russie tant de choses inutiles et tant de catastrophes futures.
Il est bien évidemment indispensable de parler du dernier tsar de la dynastie, c'est le fameux Nicolas II. Alors Nicolas II, on a l'impression que c'est celui qui a vécu ou qui est passé à côté peut-être des réformes.
Mais vous dire, je suis très gêné de parler, vous comprenez. Je vais vous dire pourquoi, parce que d'une part c'est le tsar qui a été quand même assassiné sauvagement, il est béatifié par les Russies, par l'église orthodoxe aujourd'hui, parce qu'il était sauvagement aussi assassiné, et toute sa famille, comme vous le savez bien, en 1818, mais d'autre part, il ne faut pas, 1918, il ne faut pas se leurrer. Cette période des années 10, du début, d'une manière générale, du XXe siècle, c'est la meilleure période de toute l'histoire de la civilisation russe. C'est une histoire époustouflante, quand les taux de croissance ont été plus importants que le taux de croissance des États-Unis, quand il y a les réformes qui ont été proposées à long terme par une sorte de Gaulle russe qui s'appelait Stolypine, premier ministre du tsar Nicolas II, qui a été aussi assassiné par les révolutionnaires. C'est une période aussi, sur le plan culturel, qui peut oublier Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, les ballets russes, et j'en passe, et les meilleurs, c'est les choses sont là. Et puis on était à côté de la plaque. Évidemment, l'entourage du tsar, et peut-être tsar lui-même, qui ne voulait pas être tsar, la couronne lui est tombée sur la tête, il voulait être marin. Il était très très attaché avec sa famille, il a souffert beaucoup parce que son fils était hémophile, mais la période était extraordinaire. Moi, je travaille maintenant un jour, c'est-à-dire dans 2 ans, je vais publier le roman de la Révolution russe. Cette période, ça me hante. Il y a le parallélisme avec ce que l'Europe aujourd'hui, la France aujourd'hui vit. C'est le désir de vivre dans l'illusion, dans le mensonge, dans la désinformation. Tout ça, c'est la période aussi de la veille de ça. Mais soyons très clairs qu'en tant que, disons, laps de temps historique, c'est la période d'exception de développement de la Russie. Finalement, le tsar, j'ai fait le roman de Rasputin, aurait dû écouter son copain Rasputin, son moine, disons, en tout cas, son éminence grise, Rasputin, qui disait que le plus grand problème, c'est le problème vraiment de la guerre. La Russie n'aurait pas dû entrer dans la Première Guerre mondiale. Il aurait dû rester à l'écart et continuer ses réformes à l'intérieur, transformer cela, et finalement, ça aurait pu éviter 50 millions de morts qui ont péri pendant le XXe siècle avec Lénine, Trotsky, Staline, qui ont tué 25 millions, et puis la lutte contre les nazis. Heureusement que ça se terminait dans cette grande rupture de l'histoire sans effusion du sang avec la perestroïka, mais c'est une paire de manches, c'est une autre paire de manches. Je raconte dans le roman de la perestroïka qui est sorti. Vous savez, il y a une logique, c'est un diptyque. Je fais le roman des tsars et puis je fais tout ce que j'ai vu. Le roman des tsars rouges pour le XXe siècle, c'est toujours avec ce désir de vous divulguer la face cachée de l'histoire, et ça se lit comme un roman, mais c'est le genre de la réalité qui dépasse la fiction.
Une dernière escale musicale avec Nathalie Saint-Pierre, tandis que nous vous souhaitons une bonne soirée. La chanteuse, elle nous dit bonne nouvelle. Alors, à tout de suite avec Vladimir Fedorovski pour le roman des tsars, un essai disponible aux éditions du Rocher.
Des baisers volés rouges aux pommes, des regards où le temps s'arrête. Tant qu'il y aura des beaux parleurs et des fleurs pour les pardonner, il y aura dans les hauts parleurs une femme pour fredonner. Seront à l'abri sous mes collants. matins verront se décoller tes yeux d'enfant. Pour le pire et pour le meilleur, tant que tu me souriras, je serai dans les haut-parleurs cette femme qui fredonnera. Bonne nouvelle, papa, 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 la vie est belle. Papa, 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 bonne nouvelle, papa, 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 la vie est belle. Papa, 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 papa.
Le moment est venu de conclure. Bien évidemment, on ne peut qu'encourager celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir à se procurer vos ouvrages, le roman de la Perestroïka.
Et le roman du Tsar.
Bien évidemment, aux éditions du Rocher. Merci, oui. J'aimerais quand même qu'on revienne sur ce chiffre qui va se révéler fatidique au moment du début du règne de Nicolas II. C'est ce chiffre 17 qui a marqué, puisque on peut dire la dynastie des Romanov s'éteint en 1917, et même au moment du couronnement, il y a déjà presque des signes de malchance. Il y a un rassemblement spontané de personnes sur un terrain vague, et là il y a des morts.
Oui, au moment du couronnement, oui,
au couronnement de Nicolas II.
Bien sûr, mais c'est une histoire tragique, Nicolas II. Tout d'abord, c'est une histoire tragique parce que c'est les occasions ratées. Le couronnement, ça aurait dû passer autrement. Les gens ont été tués. Le tsar devait vraiment prendre avec lui les meilleurs réformateurs qui ont été disponibles. Tout ça, c'est... Et puis, c'est une... vous avez raison d'utiliser vraiment ce chiffre fatidique. C'est la période de la prédiction. Parce que à côté de lui, il y avait des grands prédicateurs, rien que le prédicateur français qui était à côté de lui, et plus tard, un autre personnage étrange, très ambivalent, que je réhabilite, en quelque sorte, ce Rasputin que vous connaissez tous, c'était des prédictions, et liées avec ce chiffre 17, c'est surtout cette période de la catastrophe nationale qui était représentée par le coup d'État bolchevique avec l'effusion du sang sans borne et le régime totalitaire pendant 70 ans. Heureusement qu'on a sorti de ce régime autrement, sans effusion du sang cette fois-ci, mais c'est une autre paire de manches, je vous ai dit. Je raconte ça dans le roman de la Perestroïka.
Merci Vladimir Fedorovski d'avoir été ce soir devant notre micro. On rappelle donc le roman des Tsars, 400 ans de la dynastie Romanov aux éditions du Rocher, et le roman de la Perestroïka. Alors on souhaite une bonne lecture à tous
celles et tous ceux. À la cour des Tsars rouges cette fois-ci.
Absolument. Merci Vladimir Fedorovski. Voici le moment de retrouver notre libraire partenaire, c'est Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon, fraîchement revenue des salons du château du Clos de Vougeot, où la librairie L'Autre Monde avait d'ailleurs un stand et de très nombreux auteurs. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors on arrête les dégustations de grands crus et de vins de Bourgogne, néanmoins tu nous ramènes dans la période et le contexte des vendanges avec un bel album aux éditions Glénat et un auteur qui était présent au château du Clos de Vougeot lors de cette sixième édition de Livre en Vigne. C'était, je rappelle, les 28 et 29 septembre dernier.
Il a d'ailleurs eu le prix du salon. Hein. Fred Bernard, Chronique de la Vigne, Conversation avec mon grand-père aux éditions Glénat. Il s'agit d'une bande dessinée réalisée entièrement à l'aquarelle, hein, ce qui donne un album vraiment magnifique. D'autre part, c'est toujours des petites historiettes qui vont de 3 à 8 pages, des histoires vécues par son grand-père qui est un vigneron de Savigny-les-Beaunes, et c'est d'une truculence incroyable. Par exemple, le grand-père a fait le calcul que dans sa vie, il a bu pas mal de bouteilles, près de 40 000 je crois, hein, un truc de fou. C'est monsieur a un estomac et un foie en titane. Il raconte aussi le moment très très drôle où, pendant la prohibition américaine, ils réussissent, les vignerons de la région de Beaune, à exporter le vin sous le nom de jus de raisin aux États-Unis, mais comme ils veulent pas se faire attraper par le fisc, ils ne se font pas payer en argent, ils se font payer en orangerie. Donc ils avaient toute une orangerie en Californie, offerte gracieusement par la mafia américaine, et ce qui donna la marque Pampril, aujourd'hui revendue à Orangina et j'en passe. Mais longtemps, le siège social de Pampril était à Beaune. Allez savoir pourquoi. Donc un album vraiment savoureux, tendre, hein, parce qu'on sent que la relation entre le grand-père et le petit-fils est vraiment basée sur cette tendresse et cette confiance réciproque. Et aussi un album qui dépeint une certaine société, de celle où on pouvait boire beaucoup, de celle où on pouvait, par exemple, monter des petites arnaques qui n'allaient pas loin, mais qui finalement feront une richesse. Un très bel album, très doux, très tendre.
De Fred Bernard, donc Chronique de la Vigne, sous-titré Conversation avec mon grand-père. C'est un album, je le répète, aux éditions Glénat, à un prix très raisonnable, un beau cadeau peut-être en perspective pour les fêtes, à glisser sous le sapin. On peut commencer.
Je l'espère chaudement. Il sera présent à la librairie en pile, en tout cas. C'est un de nos coups de cœur de fin d'année, certain.
Des livres de poche, un roman et un essai, un documentaire.
On va commencer avec le roman. Le roman, c'est un des classiques de la librairie. Hein. Je fais parfois ça, un petit coup de lumière sur un livre qui est un peu plus âgé, mais qui reste un livre important. Sorge Chalandon, Retour à Killybegs, disponible en livre de poche, qui fut grand prix du roman de l'Académie française en 2011. On est en Irlande pendant la guerre, entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, et on est du côté de l'IRA. On va suivre un homme qui s'est engagé très très tôt. Hein, c'est vraiment un roman assez viril dans ce sens-là. On est dans le combat. On va suivre, par exemple, ses années de prison. Il va être nu dans sa prison, enfin comme il faisait. Hein. Ils avaient juste une couverture, les blanket men, on les appelait. Donc vraiment un roman très beau, très fort sur l'amitié, sur la confiance, sur l'effet d'armes. Comment on s'engage et pourquoi on s'engage et jusqu'où on va dans l'engagement. Un livre de poche que je vous conseille chaudement. Il y a le nouveau Sorge Chalandon qui vient d'arriver. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, commencez par Retour à Killybegs.
Retour à Killybegs, voilà, au livre de poche. Sorge Chalandon. Autre coup de cœur, Evelyne.
Dans un tout autre genre, il s'agit d'un essai, Ritipan, ça s'appelle L'élimination, où il raconte la destruction du peuple khmer par... Ça y est, je perds tous mes mots aujourd'hui.
Ça, c'est l'effet livre en vigne. Hein. C'est sans doute les excès de boissons et de dégustations de grands crus. C'est un symptôme récurrent, d'ailleurs, au retour de livre en vigne. On perd un peu ses moyens. L'esprit est troublé par les vapeurs des cuves et des vins consommés en abondance. Alors, Evelyne.
Donc je disais, l'élimination du peuple khmer par les Khmer Rouges, hein, des intellectuels qui ont fait leurs études en France, qui connaissent la poésie française par cœur, qui sont des fins lettrés, et qui, de retour chez eux, conquis par l'idéal, on va dire, communiste, décident de l'appliquer à leur pays, mais de manière complètement irrationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont déménager des populations sans jamais prévoir que peut-être il leur faudrait à manger, donc les gens vont mourir sur la route, ils vont décider de planifier tout, mais de manière complètement jusqu'au boutiste, ce qui fait que à peu près un Khmer sur deux va mourir hein, pendant ces années de dictature Khmer Rouge. C'est un livre qui est parfois assez difficile, hein, parce que c'est l'histoire de Ritipan et de sa famille. Lui aujourd'hui est orphelin, toute sa famille a disparu dans les camps. Il vit en France, c'est un des grands cinéastes documentaristes français. Il a beaucoup travaillé autour des procès des Khmer, notamment de Douche, qui a été jugé l'an passé seulement. Hein. Donc oui, des procès qui arrivent très très tardivement. L'histoire qui fait son travail, mais avec beaucoup de lenteur. C'est un roman, un document qui avait eu beaucoup beaucoup de prix. Hein. Le prix Joseph Kessel, le prix Aujourd'hui, prix SF France Télévisions, prix Elle, prix... beaucoup de prix, parce que c'est vraiment un document fort autour des Khmer et très facile d'accès. Vous ne pouvez ne rien comprendre à cette histoire, ne rien connaître de cette histoire et tout comprendre à ce roman.
C'est L'élimination, donc, de Ritipan en collection du livre de poche. Quelles sont les meilleures ventes?
Alors, les meilleures ventes, ce sont beaucoup de coups de cœur que je vous avais déjà présentés. Nous avons Esprit d'hiver de Laura Kazishke en première place, ensuite La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb, et enfin Petite scène capitale de Sylvie Germain.
Parfait, Evelyne, on te donne rendez-vous dans 15 jours, en fait, puisqu'on va faire une petite pause, te laisser reprendre tes esprits après la fatigue de livre en vigne. On te retrouvera donc mi-octobre prochain, toujours à bord de Wagon Livre sur votre radio locale. En ce qui nous concerne, pas très loin d'ailleurs d'Avallon, ce sera à Vézelay, samedi 5 octobre prochain, à 16h, à la Cité de la Voix. Vous pourrez rencontrer Adeline Baldacchino, qui fait paraître un essai sur Max-Paul Fouché. Cette année, nous sommes dans l'année du centenaire de la naissance de Max-Paul Fouché. Cet ouvrage sera donc présenté à la Cité de la Voix à partir de 16h, donc samedi 5 octobre à Vézelay. Le livre s'intitule Max-Paul Fouché, Le Feu, la Flamme. C'est aux éditions Michalon et on aura l'occasion, je pense, dans Wagon Livre, de reparler plus longuement de cet ouvrage, un ouvrage audacieux à mi-chemin entre la biographie et l'évocation littéraire. Et puis, un salon du livre que je voudrais mentionner, bien sûr, il a lieu tous les deux ans. 2013, eh bien, il est de retour. C'est le salon du livre de Migennes qui aura lieu le dimanche 13 octobre prochain de 10h à 18h30 à la salle des sports. C'est la 9e édition d'un salon qui a retenu cette année le thème « Histoire et mémoire populaire ». Alors, les invités d'honneur sont Nelson Montfort, avec une biographie de Charles Trenet, Gérard Mordillat, cinéaste et écrivain, Yves Dutheil, Pascal Bruckner, Thierry Séchant, Arnaud Chasserie, et on n'oublie pas aussi Didier Cornaille, le romancier d'Anneau. Le Morvandio sera présent. Parmi les éditeurs, on mentionnera les éditions de l'Armançon, les éditions de la Frémirie, la Gazette 89, la Renarde Rouge, les éditions Raison et Passion et les éditions Nicole Vaillant. À cette occasion aussi, au cours du salon de Migennes, sera présenté officiellement le dernier ouvrage d'Alain Vincent, La Roche Migennes, Histoire de lieux, paroles d'anciens. Alors les auteurs présents, j'en mentionne quelques-uns, Eve Allard, Philippe Berthelangereau, Carole Borda, Gérard Calmette, Jean-Charles Cougny, Barbara Moreau, Bernard Lecomte, Josiane Maxel, Bernard Moreau-Gaudry, Noël Renaud, Maurice Tinet, Dominique Drouin, Dominique Vallée, Alain Vincent et on annonce aussi Claudine Vincenot qui fait partie des invités d'honneur. Rendez-vous donc à Migennes à la salle des sports à partir de 10h dimanche 13 octobre pour la 9e édition d'un salon du livre qui attire tout de même toujours beaucoup de monde. Nous y seront également et on vous proposera un compte-rendu de ce salon courant novembre prochain. On se retrouve mercredi prochain, 21h, mercredi 9 octobre, pour un compte-rendu de Livre en Vigne, une première partie avec des entretiens avec Delphine Bertolon, Pierre Péju, Pierre Ducrozet, Jean-Charles Chapuzet. Vous pourrez entendre un petit mot de Bernard Pivot et un petit mot aussi de David Fuenquinos qui était le président de la 6e édition de Livre en Vigne. Rendez-vous mercredi prochain à 21h, c'est toujours à bord de Wagon Livre. Bonne soirée à toutes et à tous, on vous laisse en compagnie de Pop Rock Collection sur votre radio locale. Excellente soirée, bonne nuit, merci de votre fidélité. Au revoir. We'll be right back.